Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, Positron épisode 4, c'est le podcast où on vous parle de petits trucs super sympas qu'on a découvert ou pas qu'on a découvert, c'est juste qu'on les connaît et qu'on voudrait vous en faire profiter, c'est-à-dire que si vous vous ennuyez un petit peu de temps en temps, vous savez pas quoi faire, et ben là on va vous donner envie, on va vous donner envie de plein de choses, de films, de livres, de BD, de comics, d'albums, de musique même, donc on espère que ces recommandations vous plairont et que ça vous fera sauter de votre lit, aller vers votre petite plateforme de vente de produits dématérialisés pour acheter tout ça.
Tu viens de dire un ordinateur, c'est ça? Non, parce que parfois, oui, il faut traduire le...
Non, mais c'est pas que un ordinateur.
Un décodeur à béja, en fait.
Ça peut être une tablette ou un téléphone,
absolument,
tu vois.
D'accord, okay.
Oui, ou même aller tout simplement
votre
sortir de chez soi.
Votre petite plateforme dématérialisée d'achat. C'est comme ça que Patrick appelle ses produits. Vous comprendrez pourquoi il n'a jamais lancé sa boutique en ligne.
Je voulais faire la différence entre une boutique en ligne de produits numériques et la boutique physique, tu vois, où tu vas acheter des vrais objets. Tu vois ce que je veux dire?
Tu veux dire une plateforme d'achat matérialisée, c'est ça, une vraie boutique, quoi.
Bon, bref, Positron, c'est l'émission qui vous donne envie, c'est un zapping de bons plans merveilleux. Et je vais commencer tout de suite en élevant un petit peu le niveau de cette émission, messieurs. Moi, je parle de culture, je suis culturé, un petit peu comme dans Will & Co. C'est plus rapide qu'une course de voiture, meilleur que de la confiture.
C'est le quiz culture.
Alors... Qui a écrit Cyrano de Bergerac? Vite, allez hop.
C'est Cyrano de Bergerac qui a écrit Cyrano de Bergerac.
Non, mais je ne sais pas. Alors là,
j'ai honte parce que
non, mais je
sais.
J'abandonne.
il est connu que pour Cyrano, c'est Edmond Rostand.
Bien sûr.
Oh, il est pas connu que pour ça.
Non, il est pas. Non, mais enfin, disons que c'est pas un Baudelaire, c'est pas quelqu'un qu'on connaît autant que son œuvre, si tu veux.
Oui.
Donc.
Oui.
Il a été vampirisé, comme on dit en marketing, par son œuvre.
Exactement. Et donc, je vais vous parler de Cyrano de Bergerac parce que je suis sûr que vous avez tous, chers auditeurs, vous avez lu à l'époque, au lycée ou au collège même, Cyrano de Bergerac. Et vous avez, en bon adolescent et comme moi, vous avez trouvé ça chiant comme la pluie.
Ah non.
Évidemment. Non?
Ah non, non.
Ah, mais toi,
ah
tu
non,
étais.
Non. Non, d'accord. Que une péninsule, je sais plus, la grande sur le nez. C'est magnifique.
Une péninsule. Oui, alors c'est
non,
ça.
Alors
le truc,
moi,
c'est
en fait, quand j'étais jeune, parce que je suis plus que vous, c'était Cyrano de Bergerac au cinéma avec Depardieu.
Oui, non, mais moi j'ai à peu près ton âge.
Qui a cartonné.
Mais alors en fait.
Et non, moi j'ai toujours trouvé le texte
même
vachement
quand t'étais,
bien.
Même quand t'étais tout jeune.
Ah oui, mais bon, d'accord. C'est vrai que j'aimais bien déjà moi j'aimais Molière, ça me faisait pas chier à l'école et tout ça. Mais Cyrano, c'est un magnifique texte.
Eh bien, écoute, justement, tu as fait mon test. Voilà, je peux le terminer parce que c'est exactement ce que je voulais dire. C'est que Cyrano de Bergerac, c'est l'un des plus beaux textes de la langue française, en ce sens que c'est pas juste bien écrit parce que l'histoire est littérairement c'est bien construit, c'est que vraiment la construction, alors c'est une pièce de théâtre hein, bien sûr pour ceux qui ne le sauraient pas, mais la construction de des mots, la manière dont il met à côté différents mots, c'est vraiment à ce niveau de la construction des phrases que c'est merveilleusement écrit. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je le recommande, c'est même pas forcément que c'est une histoire agréable ou que c'est... Je dirais pas aller le voir au théâtre. Bien sûr, il faut aussi aller le voir au théâtre, c'est une expérience également, mais que ce soit en pièce de théâtre ou en film, c'est même une autre expérience que de lire simplement le texte. C'est l'une des rares pièces de théâtre qui se lit vraiment avec un immense plaisir. C'est une écriture très particulière, incroyablement réussie, qui pour moi a montre le même talent de jeu avec les mots, de jeu avec la langue que le ferait par exemple Oscar Wilde en anglais. Il y a comme ça des auteurs qui sont vraiment à part. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Hein. Moi, je suis pas très culturé, donc je les connais peut-être pas. Mais en l'occurrence, Cyrano de Bergerac, c'est quelque chose qui est à part. C'est un plaisir de lecture. C'est chantant et c'est la manière dont les mots s'agencent vont vous enchanter. Donc voilà, je le recommande vraiment à tout le monde. En plus, il est disponible. Je suis sûr qu'il est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement.
Ah oui, tu le trouves partout gratuit.
Voilà,
attends,
c'est ça.
Est-ce qu'on peut, pour le plaisir, je peux essayer de faire le début de la tirade d'aîné que je viens de
trouver. Si tu veux, vas-y, oui, avec plaisir.
Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez. Agressif, moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudra sur le champ que je l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Et etc, etc, etc.
Oui, c'est ça me donne presque des frissons.
C'est un jeu. C'est tout le pan. On critique souvent la France. On critique souvent les films français. On s'autocritique beaucoup. Mais s'il y a une chose qu'on sait bien faire, c'est jouer avec les mots et jouer avec le panache. Parfois, on en est ridicule. Et pour moi, Cyrano de Bergerac est un texte qui, moi, qui ne suis quasiment pas né en France. Je suis né en France, mais je suis parti tout de suite. C'est un des textes qui me fait aussi aimer la France.
C'est une fierté nationale incroyable. Mmh. Et puis en plus, accessoirement, au-delà du jeu avec le langage et du talent d'écriture vraiment au premier niveau, il y a évidemment l'histoire de Cyrano qui est merveilleuse et qui est d'une poésie
folle. C'est terrible
et
aussi.
Oui, tout à fait.
C'est d'une subtilité. Enfin, on va pas spoiler.
Non, mais ne raconte pas.
Non, je la raconte pas. Mais on parlait dans un épisode précédent. Tu disais les Français avec leurs films dans l'introspection, oui. C'est chiant. Mais par contre, on sait aussi raconter des histoires que personne ne raconte. Une subtilité dans les situations. Et c'est vrai que Cyrano de Bergerac, il fallait y penser de mettre quelqu'un dans cette situation-là, tu vois.
Ouais. Donc bref, on va pas en dire plus. Cyrano de Bergerac, allez le lire immédiatement si vous l'avez jamais lu. Et même si vous l'avez lu quand vous étiez plus jeune et que vous ne l'aviez pas aimé, comme c'était mon cas, c'est un truc à redécouvrir. Et c'est vraiment la fierté d'être français est aussi faite de ce genre de choses. Donc voilà, je vous encourage. Je dirais quand même que c'est, là je le classe pour les fans malgré tout, parce que ça reste une pièce de théâtre. Donc oui. Une pièce de théâtre à lire, ça, c'est un petit peu particulier.
Il y a des mots, il va falloir chercher dans Wikipédia. Hein.
Donc bon, c'est pas non plus pour tout le monde, mais si vous pensez que peut-être ça vous plairait et qu'on vous a un tout petit peu donné envie, jetez-vous dessus, vous allez adorer. Jérôme, de quoi nous parles-tu donc ?
Eh bien, moi, je reste dans les Français, ou plutôt les Françaises, sauf qu'elle ne l'était pas du tout, et le film dont je vais parler n'est pas du tout français. Mais il parle de Marie-Antoinette, qui a été fait en 2006 par Sofia Coppola. Et j'aimerais, en fait, ce test, c'est un cri pour la réhabilitation d'un film qui a été un petit peu décapité par la critique.
Marie-Antoinette, pas mal.
Pardon. Alors, le film, pour la période historique, traite d'une période de la vie de Marie-Antoinette de 1770 à 1789, juste avant la fuite à Varennes. Souvenez-vous, vos cours d'histoire, quand le roi et la reine ont fui Versailles sous la pression populaire, et c'est après qu'ils se sont fait décapiter et tout ça. Alors, le film a été très, très critiqué. C'est vrai que c'est une vision très symbolique de l'époque et de Versailles. C'est un film qui est bourré d'anachronismes et en aucun cas il faut considérer que c'est un film historique. Si vous mettez Marie-Antoinette, que vous appuyez sur play en croyant voir un film qui va vous raconter l'époque ou même qui était Marie-Antoinette, vous êtes complètement dans les choux, quoi. C'est alors malgré tout, il y a de très très beaux costumes, des très belles. Le Versailles a été très bien filmé. Moi, je trouve que c'est un des films où Versailles, qui est un endroit que j'adore personnellement, le château de Versailles, est extrêmement bien filmé dans Marie-Antoinette. Alors, un des anachronismes qui a énormément choqué, c'est effectivement la bande son. Parce que alors la bande son, en gros, ça mélange des morceaux classiques de l'époque avec Siouxsie and the Banshees, New Order, les Versaillais de R et The Cure. Donc, on est un peu surpris de voir.
Au moins, ça annonce la couleur. Hein. Ensuite, il faut pas se.
Voilà.
S'étonner
mais même,
que ça soit
je dirais
pas...
que les gens, j'ai pas compris moi les critiques à l'époque. Rien que la typo de l'affiche, on voyait bien que c'était pas un film historique. Quoi. C'est un film très très kitsch et immensément rococo. Mais justement, je trouve. Alors là, je me contredis. C'est un film peut-être plus historique qu'on ne le croit, parce que. Versailles, on en a une version dans nos têtes, peut-être nous, petits Français, une version peut-être un peu poussiéreuse. On se dit Louis XIV, c'était le faste, et puis les Louis d'après, Versailles, il n'y avait pas grand-chose. C'était quand même une débauche de couleurs, des couleurs qu'on jugerait de mauvais goût aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir des costumes d'époque. La richesse, avoir de la couleur, ce qu'il faut savoir, c'est que les teintures coûtaient tellement cher à l'époque que plus on était criant, plus ça voulait dire qu'on avait de l'argent aussi. Donc, finalement, dans sa contre-vérité historique, il reflète peut-être les exubérances de l'époque.
Peut-être l'esprit plus que la lettre.
Voilà, plus l'esprit, ce qui a probablement agacé aussi le peuple français qui les a menés à faire une révolution. Mais c'est vraiment un film qu'il faut prendre comme Moulin Rouge. Si tu crois que Moulin Rouge va te décrire l'histoire du French Cancan et ce qu'était Montmartre à cette époque-là, t'es dans les choux, mon coco. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment faire abstraction de l'histoire pour apprécier. Et c'est d'autant plus dur pour nous Français parce que c'est notre patrimoine et tout ça. Mais justement, je trouve que c'est une vraie cure de jouvence dans notre histoire que de prendre l'histoire et de s'en servir pour un propos. Le propos de Sofia Coppola n'est pas de nous décrire ou de nous raconter la vie de Marie-Antoinette qui finalement est assez chiante. Elle nous montre plutôt d'une manière détournée comme d'habitude avec Sofia Coppola, son éternel rapport d'amour-haine avec la jeunesse dorée et les affres de l'adolescence. C'est vrai que c'est une obsession chez elle qu'elle revisite dans beaucoup de films.
Même dans son dernier, d'ailleurs.
Le dernier, mais j'ai entendu des... Bon, on va pas en parler, mais des critiques moyennes.
Je vais en parler un tout petit peu quand t'auras.
Ouais, d'accord. Alors, il faut le prendre comme un film pop. L'affiche le fait bien comprendre. La bande-son... Alors, si vous regardez pas le film parce que je vous ai fait chier, écoutez quand même la bande-son. Le mélange de New Wave des années 90 et de classiques anciens est vraiment... très prenant. Moi, ça fait partie de mes bandes son.
Il y a quelque chose de fascinant.
Quelque chose de fascinant. Et vous allez découvrir aussi un compositeur classique. Et là, j'en profite pour glisser un positron dans le positron. un compositeur classique moderne que j'adore. Et Dieu sait si j'aime pas la musique classique contemporaine. Mais lui, c'est vraiment très, très bien. Je vous conseille d'aller découvrir Dustin O'Haran. O'Loran.
C'est Oula.
Ouais, c'est O comme les Irlandais et O'Loran derrière qui compose.
Bon, cherchez le compositeur de la bande originale de Marie-Antoinette.
Voilà,
ça sera plus simple.
Voilà, un film, si vous n'êtes pas allé le voir parce que la critique a été très dure avec, redécouvrez-le parce que franchement, moi j'aime bien. Voilà.
D'accord. C'est vrai que moi je suis ultra méga fan de Sofia Coppola.
Ouais.
Mais complètement, j'adore. Je vous parlerai certainement un jour de Lost in Translation.
Ah oui, ça oui. Celui-là, pour moi c'est
c'est magique. Et c'est vrai que Marie-Antoinette est peut-être un petit peu en dessous. Mais c'est vrai qu'il est, c'est intéressant. À défaut d'autre chose, c'est au moins, au minimum, un truc étrange et intéressant. J'irai pas la même chose pour The Bling Ring que j'ai vu il y a quelques semaines et qui m'a horriblement déçu. Sophia m'a trahi. J'ai été poignardé. J'étais tellement déçu. C'est lamentable, The Bling Ring. Ça n'a.
Ah merde.
Ouais, c'est. Mais bon.
Pardon, Marie-Antoinette, tu disais c'est au moins intéressant, mais on s'emmerde ou pas quand même pendant le film?
Non, alors, Honnêtement, non, moi, non, non,
le, ah, c'est le, pas un film d'action. Quoi,
non, mais justement, non, mais bien ça raconte pas la vie de Marie-Antoinette. D'accord. Ça raconte l'histoire de la jeunesse dorée fantasmée par une jeune fille qui devait être Sofia Coppola. Oui. Et en gros, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté. C'est ce film, moi, je le décris comme un macaron écœurant aussi. C'est qu'au bout d'un moment, on en a la nausée, mais ça fait passer justement un message sur cette jeunesse dorée. Il y a que la fin où ça colle pas trop, parce que justement, la fuite à Varennes, t'y crois pas trop, parce que le personnage n'évolue pas, elle reste un peu adolescente, alors que la fuite à Varennes, elle avait 33 ans, et Marie-Antoinette avait quand même bien changé dans l'histoire. C'était plus du tout la petite bergère qui jouait la bergère à Versailles. Elle s'était beaucoup impliquée dans la vie politique du pays. Donc là, ça tient plus du tout debout. Mais sinon, moi, j'ai trouvé que le début était même correct historiquement dans son esprit.
Non, mais ce qui est intéressant vraiment dans ce film, c'est ça te met dans l'esprit de ce que devait être cette gamine finalement qu'on a envoyée à Versailles, qu'on a envoyée en France et qui devait rien comprendre et rien pas du tout s'y retrouver, qui était perdue, frustrée et qui avait la plus grande cour de récré à sa disposition. C'est une vision intéressante quoi.
Ouais.
Bon.
Mais
donc voilà.
Non, c'est pas chiant du tout. Hein. Et d'accord. La musique est vraiment top en plus.
Ouais.
Et les images très belles.
Will, de quoi nous parles-tu ?
Alors oui, moi je vais vous parler d'une bande dessinée, mais avant de vous parler de cette bande dessinée, je vais commencer par modérer mes propos. Lors de la dernière émission, j'ai pris 2 semaines pour y réfléchir tranquillement. Voilà.
Oui, d'accord.
Et je pense que j'ai peut-être été un peu trop enthousiaste sur Lilo et Stitch. Il m'a fallu ces 2 semaines de réflexion, tu vois, pour revenir à ça. Alors non, juste pour revenir très très vite sur Lilo et Stitch, je vais pas dire que c'est pour tout le monde, voilà, pour faire plaisir à Patrick. Parce que ça fait quand même depuis 3 émissions qu'à chaque fois la fille me fait t'es sûr pour tout le monde.
Non mais vraiment,
vraiment t'es sûr. Alors pour te faire plaisir, je vais dire que c'est pas pour tout le monde, c'est pour les fans du genre, c'est pour les fans de dessins animés et pour ceux qui ont pas mis de côté leur âme d'enfant. Cela dit, si vous le regardez avec vos enfants ou vos neveux et nièces, vous allez vraiment passer un très très bon moment avec eux aussi. Et vous allez vraiment apprécier le film, je pense. Mais c'est vrai que peut-être tout seul dans votre chambre à regarder. Bon. J'ai aimé les dessins animés. Voilà. Donc j'ai mis au clair là-dessus. Je vais vous parler ce soir d'une bande dessinée, sortie en 2007 qui s'appelle Virginie, une histoire qui sent la colle Cléopâtre. Bon, votre âme d'enfant, vous allez pas la mettre totalement de côté encore ce soir.
D'accord.
Encore que ça s'adresse aux adultes. Hein. Virginie, une histoire qui sent la colle Cléopâtre, pardon. C'est une bande dessinée qui a été créée par un blogueur BD assez connu dans le milieu qui s'appelle Kek, K-E-K. Elle est sortie en 2007, je le disais. Elle raconte sa première histoire d'amour. Lorsqu'il était au collège avec une certaine Virginie, voilà, une Virginie qu'il avait rencontrée quand il était au collège. Et c'est une vraie histoire, hein, c'est ça qui est marrant. Il met en scène vraiment dans une bande dessinée sans histoire. Et c'est une belle histoire et surtout très très drôle. Alors, Kek, il tient depuis pas mal d'années maintenant un blog BD. C'était la mode d'ailleurs il y a quelques années. Maintenant, ça s'est un peu calmé, mais un blog BD sur lequel il dessine des petites planches de BD assez régulièrement avec un style très simple. Alors c'est pas un champion du dessin, enfin c'est pas un dessinateur hors pair. D'ailleurs c'était pas son boulot et c'est pas sa passion au départ. C'est-à-dire il a commencé à dessiner un peu et à apprendre à dessiner. Donc c'est pas formidable au niveau du dessin. C'est pas du comics que tu nous avais parlé il y a quelques semaines de Loki and Key. Mais c'est très très drôle, c'est très touchant et très très drôle. C'est là où il est très très fort, Kek. C'est tordant, il a un humour à toute épreuve. Alors après, on aime ou on n'aime pas son humour, mais c'est vraiment un humour vraiment très très rigolo. Il sait prendre ces petits éléments de la vie, ces petits trucs qui sont passés dans une vie qu'on a tous vécu plus ou moins, et il arrive à les ressortir toujours d'une façon assez rigolote. Alors cette BD, c'est la première qu'il a sortie dans le commerce. Après l'avoir proposé d'abord gratuitement sur internet, c'est-à-dire il avait fait les planches au fur et à mesure, il les a regroupées dans une bande dessinée virtuelle qu'on peut voir gratuitement, vous y avez accès sur son site à cette bande dessinée, puis il a sorti quelques temps après un peu retravaillée, vraiment au format papier, au format BD classique. Dans cette histoire, alors il retranscrit toutes les scènes qu'on a vécues, qu'on a connues dans notre jeunesse, les premiers émois, les premières rencontres, le premier amour, puis après des situations plus proches de nous, puisqu'en fait l'histoire commence où il nous parle de cette Virginie quand il était au collège, et puis après eh ben, il va parler de quand il a cherché à retrouver cette Virginie, puisque leur destin s'est séparé malheureusement très vite, très très vite. C'était son premier amour et à 9 ans déjà, il l'a rencontré la même année où il l'a rencontré. Malheureusement, ils ont dû se quitter. Et du coup, elle est toujours restée dans un coin de sa tête. Et il va essayer de la retrouver une fois adulte. Il va essayer de repartir à sa recherche. Sa première copine, sa première petite copine, mais je vais pas vous raconter toute l'histoire parce que je vais pas vous spoiler. Il y a vraiment des trucs assez rigolos. Donc des bonnes anecdotes. Il y a même mis des choses assez. Quand je vous dis que c'est vraiment une vraie histoire, ce qui est drôle, c'est qu'il a même mis au milieu, il y a une page à un moment dans la bande dessinée où il a collé une photo de sa photo de classe, sa vraie photo de classe, lui quand il avait 9 ans, avec une petite flèche qui dit là c'est moi et là c'est Virginie, et on voit la vraie Virginie au milieu de la bande dessinée. C'est assez c'est un univers assez rigolo. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est je vous recommande de la lire. Ça rappellera des souvenirs à tout le monde. C'est une BD pour les adultes, c'est pas pour les enfants parce qu'ils vont pas, ça va pas leur parler. Il vient de sortir d'ailleurs une nouvelle BD là il y a quelques mois qui s'appelle Les années collège, qui est un peu un spin-off, si on veut, de cette Virginie qui sent la coque Cléopâtre, parce que ça parle, là, c'est des bandes, chaque page raconte une petite histoire et des anecdotes, mais à tomber par terre, pareil, sur ce qu'on a vécu tous au collège, c'est vraiment très, très drôle. C'est pour les fans du genre, voilà, pour faire plaisir encore à Patrick. Ça reste quand même pour les fans du genre, faut aimer la BD, faut apprécier son humour, c'est un humour très, très rigolo, papotage, pas, je veux dire, plutôt un humour intelligent, j'ai envie de dire. La BD elle est pas chère, elle coûte seulement 7,60€. Vous pouvez la trouver sur Amazon et même elle coûte pas cher du tout pour les plus radins d'entre vous, puisque vous pouvez la retrouver toujours gratuitement sur son site internet. Elle est toujours disponible. Alors c'est une version un peu moins travaillée, mais il n'empêche que vous pouvez quand même la lire si vous avez envie sans dépenser un centime. Sa nouvelle BD, vous pouvez aussi la retrouver, je vais en parler quand même vite fait. Vous pouvez la retrouver, elle coûte 12€, elle est disponible aussi sur son site, et son site c'est blog.zanorg.com. blog.zanorg.com, et vous pouvez donc retrouver ces deux bandes dessinées et plein de petites BD qu'il fait très régulièrement toutes les semaines. Il y en a, et d'ailleurs là en ce moment il s'est lancé dans une nouvelle série qu'il appelle les cotichons, ces petits trucs un peu chiants qui nous arrivent tous les jours, des trucs quotidiens qui sont bien pénibles et qui nous arrivent tous, genre par exemple quand vous vous retrouvez dans un train sur la place qui est juste entre deux fenêtres, voilà, c'est un cotichon quoi. c'est ces petits trucs là du quotidien. Donc voilà, vraiment Cake, très très chouette dessinateur, il fait des super BD. Donc Virginie, une histoire qui sent la coque Cléopâtre. D'ailleurs je pense qu'à votre époque vous aviez connu la coque Cléopâtre.
Oui, ah, mais même on la mangeait nous.
Ben voilà, moi j'ai pas connu la colle Cléopâtre, tu vois, je connaissais la colle UHU, moi c'était déjà.
Ah oui, moi c'était un peu plus UHU. Voilà. Quand même, ouais.
Mais la Cléopâtre. C'était la fin quand même de la colle Cléopâtre. Oui. Mais l'odeur d'amande de la colle Cléopâtre.
Ben oui.
Oui, on la connaît.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ok, bah écoute, ça a l'air tout à fait touchant. Je crois que je vais aller lire sur le web parce que je suis un crevard.
Voilà, bah, tu pourrais l'aider un petit peu, cette
ressource. Non, mais je vais voir, ça se trouve, ça va pas me plaire, mais je vais voir.
Moi,
si
pour te dire, alors, pour être tout à fait honnête, moi, je l'ai lu d'abord sur Internet à l'époque, et je l'ai quand même acheté parce que j'ai tellement adhéré à cette petite histoire. C'est une petite histoire sans prétention, hein, c'est pas, enfin, vous attendez pas une histoire incroyable, mais c'est tellement touchant et c'est tellement rigolo.
Ouais,
je me suis dit, je l'ai quand même acheté, du coup, je l'ai quand même en physique dans ma bibliothèque parce que j'avais plaisir de l'avoir format papier. J'ai trouvé que c'était bien de l'acheter tout de même.
D'accord. Ok. Super. Eh bien, merci bien, Will. C'est la fin de l'émission à laquelle on arrive. Et comme vous le savez, à la fin de l'émission.
Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web, Patrick? Tu vois, j'aime bien
beaucoup.
Ah, là, non, mais tu me perturbes.
Il est perturbé, là. Il s'est mis en boucle comme un vieux programme.
Alors, moi, c'est sur Twitter, c'est le plus simple, hein. Je suis NotPatrick sur Twitter, donc vous pouvez aller me suivre là-bas. Et vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts que je fais sur frenchspin.com, et vous pouvez évidemment commenter cet épisode et tous les autres sur ce blog-là. Donc vous pouvez aller vous moquer de Will parce qu'il a changé d'avis sur Lilo et Stitch par exemple,
dire à Jérôme qu'il ne change pas d'avis, hein, voilà.
Oui, mais le fait de changer d'avis ne veut pas dire qu'on n'est pas imbécile non plus.
Oh là. Hein.
Bah, attends, bah. Je décortique cette phrase. Bon, il y a des triples négations et je sais pas si ça marche.
On en reparlera au prochain épisode. Jérôme, et mais en plus, c'est le quatrième épisode de la série, donc c'est la fin de votre présence dans l'émission.
Ah, tu nous inviteras plus jamais, c'est
mais
ça?
Mais si, mais un jour, mais je veux dire, on va faire circuler les animateurs. On aura deux nouveaux animateurs pour les prochains épisodes. Et puis, vous reviendrez un moment plus tard. Hein. Alors, il y a pas de souci.
En tout cas, j'aimerais dire que j'ai passé un très très bel été à vos côtés. Parce que là, on doit être à peu près fin août, je pense.
Non, ouais, début mi-août à peu près.
Bon, d'accord.
Globalement, entre le 1 et le 15.
Bon, bah, écoutez, moi, je m'en vais en vacances dans pas longtemps. Donc, je vous enverrai une lettre. Hein.
Bon, mais t'as passé un bon moment quand même.
Ah ben bien sûr.
Oui, donc, d'accord.
Je me suis régalé. Okay.
Moi, j'ai trouvé que ça me manquait quand même un peu de champagne pour un lancement de mission, mais bon, je veux pas faire mon dégueule, mais voilà. Ça
écoute,
coûte pas grand-chose, un peu de champagne, quelques langues de chat, enfin voilà, on s'est.
Jérôme, si tout va bien, bon oui, je suis désolé, mais si tout va bien, Jérôme, on sortira à peine de mon mariage où il y aura eu un petit peu de champagne quand même.
Bah, je comprends donc que je ne suis pas invité au mariage.
Bah, c'est en Finlande en même temps, donc.
J'aurais bien aimé découvrir la Finlande.
Bah écoute, pour le prochain interview.
Oh, ça, il faut jamais dire ça.
Pour quand on renouvellera les vœux.
Ouais, bah, ça, c'est bien mieux.
Oui. Pour les 10 ans.
Voilà. Non, mais en plus, c'est vrai, là, si tout va bien, je suis maintenant monsieur Béja de monsieur et
oui,
madame Béja.
C'est vrai,
c'est incroyable.
Bah, félicitations, bravo. Bah,
merci. Merci, merci.
Ça s'est bien passé, bref. Tu nous racontes un peu la cérémonie.
Mais tu gardes ton nom de jeune fille, alors?
Bah oui, je garde mon nom de jeune garçon. Et donc, bon, bref, trêve de plaisanterie.
Et toi, Will, où est-ce qu'on te retrouve sur le web?
Par exemple.
Mais tu nous as pas dit, Jérôme, où t'on te retrouvait. Bon, c'est pas.
Tant mais pis. Non, mais vas-y d'abord.
Ah, bah, d'accord, alors. Vous me retrouvez sur willandco.fr. D'ailleurs, dans quelques semaines, on va reprendre willandco. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison. On change de nom, on change de studio, on change un peu.
Pardon?
Tout.
De quoi? De nom?
On change de nom. On change tout, monsieur.
Genre William & Co.
Non, ça va être non, mais on change de nom. On va s'appeler WAC, tout simplement. On l'utilise déjà depuis quelques temps, mais voilà, on simplifie.
WAC.
WAC. WAC. WAC.
Tu sais que WAC, c'est quoi en verlan, hein?
Oui, bah alors, c'est quoi ton émission de WAC? C'est WAC. Bah c'est WAC. Okay. C'est n'importe WAC. C'est WAC the fuck.
N'importe WAC.
N'importe Nawak. Donc voilà, retrouvez-nous sur willandco.fr, sur notre chaîne YouTube, youtube.com/willandco.fr, pour de vos épisodes très prochainement. Là, on devrait commencer en septembre, là, ça devrait pas tarder.
Ok, super. Et Jérôme, dis-moi, cher camarade.
Écoute, moi, si je ne me suis pas perdu dans les fjords de ton mariage, si je n'ai pas fondu dans cet été qui... Allez, je vais prendre mes paris, cet été caniculaire. Parce que au moment où on enregistre, ce n'est pas encore l'été, mais on va dire, le moment où on est diffusé, c'est peut-être un été caniculaire. Donc, je vais faire un pari, j'ai une chance sur deux. Écoute, vous pouvez me retrouver sur Nowtech TV, où je fais, quand mon nouveau travail me le permet et qui me laisse quand même moins de temps qu'avant, je fais des tests d'applications et des tests tech, donc sur nowtech.tv. Il suffit de taper ça sur Internet et vous tomberez sur la chaîne YouTube.
J'aime beaucoup quand tu dis de taper ça sur Internet.
Ouais, tapez-le fort.
Sur Internet. Super, merci Will, merci Jérôme, merci à vous deux donc pour cette première session de Positron. J'espère vraiment, chers auditeurs, que ça vous aura plu.
Ouais, on avec sera des parrains pareils, ça ne peut être qu'un succès.
Avec des quoi?
Avec des parrains pareils.
Ah bah oui, c'est sûr.
Il a compris des radins pareils.
J'étais pas sûr. Bon.
Don Corleone du podcast. Quoi.
Donc, on clôt cette première session. On en ouvrira une autre très bientôt. Je sais pas quand exactement. Comme je disais, cette première, c'était une session pilote. Donc, on va voir comment ça va se passer pour la suivante. Mais je suis à peu près sûr qu'on reviendra. Et je suis certain qu'on reviendra. C'est juste une question de semaine. Normalement, si tout va bien, on sera de retour. Le rythme ne sera pas cassé. Et si l'émission vous a plu, je vous encourage vraiment à aller sur iTunes pour nous laisser un commentaire et ou une note. Je vous l'ai dit dans tous les épisodes précédents, donc je ne vais pas le répéter, mais ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous sert pas mal. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission pour de vrai. Donc on vous fait de gros, gros, gros bisous à tous et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao à tous.
Salut.
S'il pleut en août, c'est pas ma faute.
Don't walk, stop it, 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 don't walk, stop it